Rassurez-vous, je vais pas être trop long parce que là, je sens de l'énergie et je sens que si je suis un peu long, vous allez tout de suite vous endormir. Mais j'aimerais quand même vous partager quatre choses au sujet de quatre points pour nous nourrir des textes de ce jour et pour nous nourrir peut-être aussi de la fin de cette veillée. D'abord, la première chose que j'aimerais vous partager, c'est que je constate que vous êtes des furieux. Des furieux parce que vous avez passé ici toute la nuit et que vous êtes encore plein d'énergie. Et je ne peux vous dire que mon admiration de vous voir avec toute cette énergie. Et ça fait écho à ce que me disait récemment un de mes frères prêtres, qui est le supérieur du séminaire de la communauté Saint-Martin, et qui me disait, tu sais Paul, les chrétiens doivent être des énervés aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre, il faut être des énervés au bon sens du terme. Et je pense que ce soir, vous me l'avez fait, cette nuit et jusqu'à ce matin, vous me l'avez fait toucher du doigt, que oui, nous devons être des énervés dans ce monde aseptisé, dans cette société liquide, dans cette société sans espérance, dans cette société qui râle, qui grogne, qui se fait peur, dans cette société résignée. Nous devons être des énervés, mais des énervés au bon sens du terme, des porteurs d'espérance. Et merci, je voulais vous remercier de me l'avoir fait goûter ce soir par votre énergie. Quel que soit votre âge, cette énergie qui trouve sa source dans le Seigneur. Donc nous devons être des énervés, comme Jean-Baptiste, comme vous l'êtes. Le monde a besoin d'énervés. La deuxième chose que je voulais vous partager en lisant ces textes, c'est peut-être la première chose que je retiens, c'est que le prophète et Jean-Baptiste nous rappellent peut-être aujourd'hui que ce temps de l'Avent est un temps où nous avons besoin de goûter au désert. Nous avons besoin de goûter au silence. Nous avons besoin, nous chrétiens, dans ce monde qui est plein de bruit, plein d'informations, de fake news, d'angoisse. Il suffit d'aller sur Facebook 5 minutes. Là, aujourd'hui, j'y suis allé, mais c'est tout. L'angoisse monte tout de suite. Le bruit vous pollue la tête, le cœur, l'âme. Et dans ce monde de bruit, nous chrétiens, nous avons besoin du désert. Mais non pas d'un désert qui soit un désert de solitude, mais d'un désert où Dieu peut nous parler. Parce que c'est dans le désert que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie. À noter que cette parole de Dieu, et Luc nous le montre bien, c'est pas une parole hors sol, une philosophie, un courant, une idéologie. La parole de Dieu, elle s'insère dans une histoire. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère. Et on nous explique bien que Ponce Pilate était gouverneur, Hérode était au pouvoir, son frère régnait sur l'Iturée et la Traconitide. Les grands prêtres de l'époque sont Anne et Caïphe. Derrière, on a déjà toute la passion qui est plantée, le décor de la passion. Et c'est bien pour nous montrer que la parole de Dieu, elle s'insère dans une histoire, dans un temps. Nous n'avons pas une religion hors sol, comme la plupart des religions de supermarché qu'on nous sert aujourd'hui, de méditation, de trucs transcendantaux, de machin. La parole de Dieu, elle s'adresse aux hommes dans une histoire, dans l'histoire. Et elle s'adresse à des hommes. Notre Dieu nous parle. Notre Dieu est un Dieu personnel qui nous parle maintenant. Et à moi aussi, à chacun de nous, aujourd'hui, 2018, 9 décembre, au lendemain de la manif des Gilets jaunes, Dieu me parle. Ce n'est pas une religion éthérée, la religion chrétienne. C'est une religion profondément incarnée, celle où Dieu nous parle à nous, dans notre histoire, dans notre temps, avec ce que nous sommes. Mais pour l'entendre, il faut le silence. Le silence pour entendre Dieu. La troisième chose que je voulais vous partager, Moi, je suis toujours fasciné par cette espérance qui anime les prophètes. Et ils ne se lassent pas. Isaïe redisait à Jérusalem, « Consolez, consolez mon peuple, réjouis-toi, enlève ta robe de tristesse. » Il est fort ce terme de robe de tristesse. Baruc le redit 2 siècles avant le Christ. Et là, c'est encore Jean-Baptiste. Tous ces hommes qui ne se lassent pas d'espérer. Alors que tout est à la résignation et les promesses de Dieu sont tellement anciennes, on les attend, on les attend, on les attend. Et pourtant, il se lève à chaque fois des prophètes pour réveiller le peuple et dire « Allez, espérons !» Pour nous rappeler que nous, chrétiens, nous sommes des hommes et des femmes d'espérance. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, nous sommes des pécheurs. En revanche, parce que nous avons la foi et parce que nous avons l'espérance, nous pouvons nous tenir debout. Debout dans ce monde qui baisse la tête, dans ce monde de résignation et de désespérance, d'angoisse, de peur. Le chrétien, il est debout, comme le prophète, et il dit aux autres, allez debout, parce que Dieu va réaliser sa promesse. Parce que Baruch nous dit, Dieu se souvient. Dieu a promis. Et donc le chrétien, c'est celui qui regarde vers l'Orient, c'est-à-dire vers là où le soleil se lève, vers la résurrection, vers le retour du Christ. Le chrétien est celui qui attend la réalisation des promesses. Ça ne l'empêche pas de goûter aux angoisses du monde. Nous sommes touchés par ces angoisses. Nous aussi, nous avons peur de notre retraite, de ce que nous allons devenir, de notre santé, de ce monde, de cette société qui... Cette société civile qui, parfois, on sent ce manque d'unité. Mais nous, chrétiens, debout, plein de force, énervés gentiment, plein d'espérance, le Seigneur se souvient. Il a vaincu. Nous attendons son retour. Chrétiens, nous devons être ces témoins d'espérance et demander cette espérance au Seigneur. Si nous n'avons pas l'espérance, qui la donnera au monde ? Google, Facebook ? Demandons au Seigneur cette espérance. Et cette espérance, elle s'appuie sur quoi ? Sur la parole de Dieu. Le silence nous donne la prière nous donne l'espérance. Je me souviens d'un carnet d'une vieille dame qui est morte après un vrai déclin et qui écrivait une phrase magnifique qui sentait parfois, elle se sentait seule, elle était veuve, ses petits-enfants étaient loin. Parfois le dimanche soir, elle avait le cafard et elle écrit, j'avais retrouvé un carnet et j'avais lu certaines lignes, elle disait « Tu nous parles, Seigneur, et tu te fais connaître, là est le seul courage possible ». Je trouvais ça génial comme phrase. Notre courage, notre espérance, c'est que Dieu nous parle. Et il nous parle encore aujourd'hui. Chrétiens, nous devons être témoins de l'espérance. Et une espérance qui s'enracine dans cette parole que Dieu m'adresse à moi. La dernière chose aussi que je voulais vous partager, parce que je commence à avoir des têtes qui... Ou avant que je m'endorme moi-même, hein, parce que je me fatigue peut-être... La dernière chose que je voulais vous partager, c'est qui me touche beaucoup dans l'Épître aux Philippiens, c'est l'amour de Paul. L'amour de Paul pour tous. Pour toute cette petite église de Philippe, dans laquelle pourtant il a été persécuté, dans la ville de Philippe, mais cette église, il dit « J'ai cet amour pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. » Et c'est cet amour, nous dit saint Paul, qui doit aiguiser notre intelligence et notre clairvoyance. Le moteur de l'intelligence, c'est l'amour. Peut-être qu'aujourd'hui, on souffre un peu dans notre société, dans notre monde individualiste, que le moteur soit l'intelligence et puis après, il y a l'amour. C'est l'amour qui doit stimuler, qui doit guider notre agir. Et comme chrétiens, l'amour de... Nous sommes invités à aimer tous, Aimer tous, ça veut dire refaire découvrir le bien commun à tous. Ici, en plus, c'est particulièrement fort, avec votre association pour l'unité, de faire redécouvrir au monde le bien commun. Que ce n'est pas mon bien particulier, l'amour de tous, dans la justice et la vérité. Et cet, vous voyez, si Paul nous parle de cet amour, moi ce qui me touche, c'est qu'il dit que l'amour précède l'intelligence et la clairvoyance. Cet amour, finalement, il nous pousse à nous engager. Et nous devons nous engager. Parce que la foi chrétienne, c'est pas une foi éthérée, c'est pas une foi hors sol, c'est une foi qui nous demande de mettre les mains dans la glaise. Le vrai mystique, c'est celui qui débouche des toilettes. Le vrai mystique, le Christ, c'est celui qui se met à genoux devant les disciples pour laver les pieds de ses disciples. Notre amour nous presse à nous engager avec intelligence et clairvoyance. Et finalement, en y réfléchissant, on est en train de reboucler ce que Mère Teresa disait à ses sœurs. Si vous devez retenir une seule chose, si vous devez écouter un instant, c'est maintenant. Après, vous pourrez vous rendormir. Mais c'est intéressant ce que disait Mère Teresa, c'est très simple à retenir. Elle disait, le silence engendre la prière. Le désert engendre l'écoute de la parole de Dieu. Le silence engendre la prière. La prière engendre la foi. La parole de Dieu engendre l'espérance. La foi engendre l'amour. L'amour engendre le service. Et le service engendre la paix. Si on veut la paix sociale, si on veut la paix dans notre Église, si on veut la paix dans le monde, le silence engendre la prière. La prière engendre la... Oh, la foi, la foi et l'espérance. La foi engendre l'amour. L'amour engendre le service. Et le service engendre la paix. Amen.